Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le PCC numéro 299, et oui, bientôt le numéro 300. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2014, et je vais donc vous présenter cet épisode avec 24 heures de retard pour les news du mois de novembre. Alors, les traditionnels remerciements pour les sponsors officiels du PCC qui ont pris un pass backstage sur la chaîne guitare pour supporter ce super beau projet. Donc en particulier, je salue Frédéric Pernaud, Bernard Thory et Philippe Bèche, ainsi que Hermano via Patreon sur Alerte Tatou. J'en reparlerai un petit peu plus tard de la page Patreon. Il y a aussi les mécènes qui sont passés sur Patreon. Il y a Maximilien Aimant. Et enfin, Michel et Mickaël. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Et si vous voulez faire comme eux, me donner un petit coup de main, voilà, parce que vous trouvez de la valeur à écouter ma douce voix entre vos oreilles quand vous êtes en train de courir, quand vous êtes en train d'aller au boulot, dans le métro, en voiture, ou que sais-je encore. Bah, n'hésitez pas à aller sur la page patreon.com/lachaîneguitare. Vous pouvez contribuer à partir de 1 dollar par émission. Et en fait, je mets en payant deux émissions par mois, ce qui veut dire 2 dollars, donc à peine le prix d'un café par mois. Voilà, si ça vous tente de faire ça, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça me donne un petit coup de main. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler dans cet épisode du mois de novembre où on commence à se cailler un petit peu les miches. Donc, je continue la tradition d'enregistrer le PCC dehors. J'ai commencé l'enregistrement dehors parce qu'il a fallu que je m'empaquette un petit peu, etc. Que je me mette le casque sur la tête et compagnie pour pas être complètement gelé. Bon, c'est pas non plus le froid polaire, hein, mais bon, comme on commence tout juste à rentrer dans le fret, il faut qu'on se réhabitue. Donc voilà, je traverse une rue et là je vais arriver bientôt. Je suis juste à côté du chalet du lac. Et je vais arriver à côté du lac. Donc je vais vous parler de sport. Je vais vous parler de boulot, de la chaîne guitare évidemment, et puis aussi d'histoire de geek. Alors le sport, vous savez que, résumé des derniers épisodes, je traînais encore mon enthésiopathie, donc à savoir une tendinite de l'ischion, en insertion au niveau de je sais plus trop où, j'avais mal à la fesse droite. Et les dernières fois qu'on s'est parlé, ça commençait à aller mieux et j'avais recommencé à courir de manière un petit peu plus intensive, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine. Je suis à 3 fois par semaine maintenant. J'ai même refait une sortie longue la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je sais plus. Enfin, j'ai fait un 21 km en 1h56, donc sans forcer non plus, mais enfin bon, voilà, en allongeant un peu la foulée. Donc j'étais hyper content de ça. J'ai fait aussi des 10 km un petit peu plus toniques en 50 minutes. Donc, et à chaque fois, après l'entraînement, j'avais la même sensation que ça allait un petit peu mieux à chaque fois. Donc tout se passe comme si j'avais effectivement eu besoin de parfaire la guérison, enfin en tout cas de terminer la guérison en courant de manière un petit peu plus intense pour pousser la guérison à se terminer. Alors voilà, je n'ai aucune idée si ça fait du sens. Ça a certainement du sens puisque ça fonctionne, en tout cas dans mon cas. La dernière fois que j'avais vu le kiné, il m'avait dit bah écoutez, là j'ai plus rien à faire pour vous, tout est bien de mon côté, il faut maintenant tester en dynamique. Donc voilà, ce qui m'a donné, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Alors bien sûr, il y a sûrement aussi l'effet un peu psychosomatique ou quand on est nous les coureurs, on aime bien se raconter des histoires et surtout mettre derrière nous le plus vite possible les problèmes de blessures. Donc je pense qu'il y a sûrement eu un petit peu de ça aussi. On essaye quand même d'être objectif par rapport à la douleur qu'on a, et il y a eu des moments où j'ai eu à passer des longs moments assis, et qui à une époque m'aurait fait vraiment mal, enfin vraiment j'aurais senti la douleur, et maintenant ça me gêne presque plus quoi. Donc c'est un véritable progrès à ce niveau là donc je suis hyper content. Je vais reprendre un petit peu mon souffle. Donc j'ai rempilé, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, je me suis réinscrit au marathon de Paris, donc qui va se courir le 12 avril 2015. Donc j'espère qu'il ne fera pas trop chaud, parce que vous savez que la chaleur, c'est mon ennemi numéro un sur les grandes distances. Voilà, j'avais envisagé de faire d'autres marathons, peut-être plus tôt, etc. Étant né à Paris, ça va faire la quatrième ou la cinquième fois, je pense que je le fais. Je pense que ça sera la quatrième fois, il me semble. Et à chaque fois, je ne l'ai jamais terminé dans de très bonnes conditions. Donc j'ai toujours cette petite revanche à prendre et je me dis à chaque fois, j'ai craqué, je pensais en faire un autre et finalement il y a aussi l'avantage de courir un parcours qu'on connaît bien, qui est quand même tout à fait intéressant. Le projet initial, c'était aussi de m'inscrire au semi, mais là j'ai tergiversé un petit peu trop longtemps, donc du coup j'ai pas de dossard. C'est vraiment dommage parce qu'il se court en bas de chez moi quand il part à 400 mètres de la maison, et il revient au même endroit, donc au château de Vincennes, devant l'esplanade. Ça c'est dommage parce que du coup c'est des courses qui sont où on a une logistique très courte, puisque ça se fait là. C'est un peu dommage. Si jamais il y a un Parisien qui a le bras long et qui a un code promo, je suis preneur, hein, parce que ça m'intéresserait quand même de le faire dans le cadre de la préparation. Justement, la préparation. Alors bon, jusqu'à présent, j'ai essayé plusieurs méthodes, plusieurs plans. Vous savez que le plus proche que je suis arrivé de l'objectif de 3:30, c'était à Berlin, donc c'était en 2011 maintenant. Ça fait 4 ans, ça en fera 5 l'année prochaine. Avec 3h30 et puis 40 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Et depuis, à chaque fois, je me fracasse la tête sur le mur, j'arrive pas à aller plus vite. Donc j'en ai parlé à mon copain Greg Runner, du fameux blog Greg Runner, qui a décidé de prendre les choses en main, et j'en suis plus que content. Donc il va me coacher, me botter le train quand il faudra, etc., me motiver, et je pense que ça va être aussi un échange intéressant, puisque je pense aussi que c'est ça dont j'ai besoin pour avoir une interaction plus fine et peut-être faire les réglages qui s'imposent. Donc la première étape, c'était de faire un test de VMA. Alors j'en avais fait un il y a 2 ans justement avec Urban Running, là, le groupe avec lequel je m'étais entraîné les dernières années. Et c'était en suivant un protocole où on court, c'était sur un stade, et en fait on court par palier en démarrant très lentement, et puis à chaque fois qu'il y a un bip, la vitesse augmente, je sais plus, de 1 ou 2 km/h. Et on fait comme ça, jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est pas tout à fait ça, mais jusqu'à ce qu'on puisse plus tenir le rythme. Donc à l'époque, donc ça date de 2010, là j'ai vérifié, j'avais fait une VMA de 16 km/h. Et donc là j'ai fait un autre test là, que Greg m'a conseillé de faire, où on fait d'abord un échauffement de 20 minutes, donc tranquille. Et ensuite on court 6 minutes le plus vite possible. Voilà, alors 6 minutes c'est à la fois court et long. C'est quand même une période, un temps qui est très court, mais c'est long parce qu'on n'est pas non plus sur une distance de sprint, quoi. Donc ils feront vraiment jauger. Bon, moi au pif, j'avais visé de pouvoir faire dans les 4 minutes du kilomètre, et c'est à peu près ce que j'ai tenu. J'ai fait 4 minutes, c'est ça, parce que j'ai fait 1510 mètres. De distance pendant les 6 minutes. Donc bon, rétrospectivement, c'est toujours pareil. On se dit, est-ce que j'étais complètement à fond, tout ça. J'étais complètement à fond sur la fin, ça c'est clair, parce que je commençais clairement à cracher mes poumons. Est-ce que sur le début, j'aurais pu être un petit peu plus vite à 4 minutes ou un petit peu en dessous, à 3 minutes 50, à 3:45. Sur la fin, quand je regardais le chrono, j'étais quand même souvent vers 3 minutes 30, 3 minutes 45. Donc ça veut dire qu'au début, j'étais sans doute un petit peu moins vite. Alors c'était aussi la première fois que je faisais le test de VMA comme ça, avec 6 minutes, sur 6 minutes au taquet comme ça. Donc peut-être je referai un test. J'en ai parlé avec Greg par mail tout à l'heure. Il m'a dit, écoute, on va partir sur ce plan-là. Sachant que 1510 mètres en 6 minutes, ça fait une VMA de 15 km/h. Et Greg me disait, normalement, pour un plan à 3h30, il faut minimum une VMA de 16, quoi. Donc ce que j'avais il y a 2 ans, 2010, ça fait 4 maintenant, ce que j'avais il y a 4 ans et que bah, j'ai peut-être plus maintenant parce que j'ai 4 ans de plus, mais aussi bon parce que j'ai quand même pas mal moins couru ces derniers temps du fait de ma tendinite, de l'anthésopathie que je soignais, quoi. Voilà, il n'y a pas de secret, même si on aimerait bien pouvoir se dire qu'on reste toujours au top et qu'on ne diminue pas, le temps fait son heure et on est quand même un petit peu moins rapide avec les années qui passent. Bon, néanmoins, tout espoir n'est pas perdu et puis c'est justement le but de réattaquer un programme un petit peu velu pour se remettre tout ça en jambes et s'attaquer une fois encore à l'objectif de 3h30. Donc j'ai bien hâte de recommencer. Ça me fait super plaisir de pouvoir faire ça avec Greg parce que c'est non seulement il est hyper sympa, mais en plus bon il connaît bien son truc, etc. Et on a déjà eu l'occasion quand on avait déjeuné ensemble d'échanger pas mal. Il m'avait donné pas mal de pistes de travail qui étaient intéressantes. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, justement, un peu avec une formule coach one-to-one, comme ça. Et pour référence, d'ailleurs, je lui avais demandé, Greg, lui, combien il avait fait au test de 6 minutes. Il avait fait 1830 mètres, il m'avait dit. Bon, alors voilà, Greg, c'est un peu la catégorie avion de chasse. Moi, je suis plus long courrier, biplan, voilà, quoi. Mais bon, voilà, je désespère pas, surtout ce qui compte, et... c'est que voilà cette anthésopathie ne soit plus qu'un mauvais souvenir assez rapidement. Ce qui est vraiment le cas, c'est bête, hein, mais je commence à réapprécier le fait de m'asseoir sur une chaise, quoi. Alors qu'avant, à chaque fois que je m'asseyais sur une chaise, c'était pas de la torture, parce que le mot serait un peu fort, mais franchement, pénible, quoi. Voilà, j'étais donc en train de parler de station assise quand la carte SD du H2 m'a fait signe qu'elle était pleine. Donc voilà, il y a quelques temps encore, rester assis pendant même quelques minutes ou un peu plus, quoi, ça. Voilà, je pouvais rester assis sans problème, c'est en me relevant, ça me faisait mal. Et par exemple là, samedi soir, et on a eu un grand repas de famille, etc. Je suis resté assis très longtemps. Il y a quelques mois, j'aurais vraiment dansé après. Enfin, je veux dire, j'aurais eu souffert, alors que là, bon, voilà, ça je l'ai senti, mais c'est beaucoup, beaucoup moins. Donc voilà, tout ça pour dire que faut-il courir plus vite pour guérir plus vite, je ne sais pas, mais en tout cas ça a fonctionné dans mon cas et clairement ça a changé ma vie. Alors on est bien d'accord que j'étais pas non plus à la torture à chaque fois, mais c'était au niveau de la petite douleur énervante qui est là tout le temps. Et puis voilà, quand on est à essayer de maximiser sa performance sportive, quel que soit son niveau, on peut pas le faire si on a ce petit bobo, un petit bidule, voilà, qui fait qu'on récupère pas bien et ainsi de suite. Donc voilà, la suite au prochain numéro, mais en tout cas je suis assez excité de commencer ce programme. Je vous tiendrai au courant et puis surtout que de finir d'en finir avec cette anthésopathie. Alors, côté boulot, c'est plutôt plat. En ce moment, il faut dire que je suis à 120% sur la chaîne guitare, dont je vais vous parler un peu après. Donc, j'ai mis un petit peu, comme on dit en québécois, sur le back burner, là, ma recherche active de boulot. J'attends toujours des retours sur une éventuelle piste en Belgique, là, pour lequel Patrick, un des auditeurs que je salue au passage, m'avait mis en rapport sur quelque chose d'un truc super intéressant. Donc après voilà, c'est toujours pareil, il faut que la proposition qu'on fait soit en accord, enfin corresponde, colle avec la stratégie de l'entreprise, mais la mission en question était pas mal intéressante. Donc voilà, c'était ça en fait le dossier le plus chaud. Donc normalement des nouvelles bientôt. Alors, la chaîne guitare, ça cartonne pas mal en ce moment. Je suis vraiment content de la tournure que ça continue de prendre. Là, on est le 1er décembre, donc je viens de terminer le mois de novembre, hein, n'est-ce pas ? Voilà, une belle porte ouverte d'enfoncer. Ce qui me permet à chaque fois de voir le chemin qui a été parcouru et puis de comparer mois par mois. Donc, au mois de septembre, à fin octobre, pardon, j'avais fait plus 22% de backstager payant, qui pour moi est la métrique ultime, enfin en tout cas que je suis de près, qui est celle qui me permet de mesurer le succès ou pas de la chaîne guitare. Donc le nombre de personnes payantes à l'instant T, voilà, j'avais fait plus 20%, plus 22% je pense au mois d'octobre, et là à fin novembre j'ai fait à nouveau plus 20%, ce qui fait que je suis à 127 backstagers payants, là où j'étais donc à peu près une centaine à fin octobre. Donc voilà quoi, il n'y a pas beaucoup de business hein, je pense ces temps-ci qui ont des croissances à deux chiffres comme ça. Bien sûr, on peut dire, quand on démarre de pas très haut, c'est facile de faire des croissances à deux chiffres. Bon, il n'empêche que, ça se confirme. Ça a été le cas depuis... je suis en train de réfléchir. Depuis le mois de février, où j'ai une croissance à deux chiffres, sauf août et septembre, qui ont été un peu décalés comme saison d'été, qui ont été plats, où il s'est presque rien passé au niveau backstage. Bon, ce qui est un peu normal, c'est la période des vacances. Mais donc là, il y a une vraie dynamique très très positive, et voilà, donc je ne peux que me féliciter. Et l'autre point, très important, c'est qu'il y a très peu de temps, là, il y a 15 jours, le 14-15 novembre, j'étais à Berlin pour le Holy Grail Guitar Show, qui est donc un rassemblement de luthiers qui s'organisait pour la première fois. Il y avait 115 luthiers de partout dans le monde, avec 22 nationalités, où j'ai fait 21 interviews, 19 en anglais et 2 en français, et avec des Japonais, des Canadiens, des Américains, des Suédois, des Finlandais, etc. Et donc ce qui m'a permis de faire des interviews avec des gens qui sont qui viennent jamais, dont certains, par exemple les Japonais, c'était la première fois qu'ils venaient en Europe, quoi. Et il y a eu un effet qui était assez sympa, c'est que dès que j'ai mis en ligne ces interviews, j'ai eu des backstagers de l'étranger qui ont commencé à prendre des passes. Donc ça, c'est hyper kiffant, parce que c'est clair qu'au niveau démographique, il y a 10 fois plus de monde anglophone que francophone. Hein. Je le constate d'ailleurs au niveau de la taille de ma communauté. Hein. Sur Twitter, j'ai 2500 fans sur la followers, pardon, sur @ la chaîne guitare, là où je viens de passer le cap des 25 000 sur @theguitarchannel. Donc, j'ai vendu finalement plus de passes backstage à l'international ces 10 derniers jours que dans les 10 derniers mois. S'il en fallait qu'on propose du contenu qui n'existe pas ailleurs, ça vaut vraiment le coup. Et que ça paye. Et c'était d'autant plus, gratifiant pour moi que là, Berlin, ça faisait quand même 150 € de billets d'avion, deux nuits Airbnb, les frais pour y aller, etc. Enfin bon, c'était quand même pas donné. Mais je regrette vraiment pas d'avoir fait cet investissement à double titre. Hein. Le premier titre, d'avoir pu faire des interviews de très très bonne qualité, de jouer mon rôle dans la communauté, parce qu'évidemment quand les luthiers, je pense en particulier à un luthier finlandais qui s'appelle Juha Ruokangas, qui est une marque de très haute gamme, hein, et ses guitares elles commencent à 4 chiffres en euros, et avec qui j'ai fait une interview de plus de 3 quarts d'heure. Ça permet d'établir un contact. Je sais pas si j'aurais pu le rencontrer autrement qu'en allant à Berlin, quoi. Donc ça permet de montrer ce qu'on est, ce qu'on fait, et qu'on est un média super sérieux. Donc ça, c'est le premier titre. Et le deuxième titre, évidemment, c'est ce que je viens d'expliquer, que quand on produit du contenu de très bonne qualité, les gens sont prêts à payer pour. Mais il faut vraiment aller vers le haut de gamme, quoi. Et j'ai clairement, moi, cette ambition de proposer du contenu haut de gamme sur la chaîne guitare. Avant ça, dans le courant du mois de novembre, il y a eu fin octobre, début novembre, à cheval, il y a eu le festival Guitare Issoudun, qui a été aussi un très bon moment, avec plein de belles rencontres. En particulier avec Paul Persson, dont je suis un grand fan depuis très longtemps, que j'ai eu l'occasion d'interviewer backstage, j'ai filmé une partie de la balance, etc. Enfin vraiment, c'était un vrai bonheur, c'est hyper sympa. J'ai fait aussi quelques interviews de luthiers, d'artistes qui étaient présents, vraiment quelque chose de très sympa. Bon, par contre, là, le deal avec le festival Guitare et Soudain, c'est comme ils m'invitaient, j'étais nourri, logé. Le deal, c'était que toutes les interviews que je faisais sur place, elles étaient à disposition de manière libre et non pas derrière le pass backstage. Néanmoins, ça permet de jouer, encore une fois, ce rôle un peu de média dans la communauté, de tisser des liens, etc. C'est toujours très, très intéressant. Voilà de quoi je vais vous parler aussi. Oui, la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai organisé une masterclass en dur, donc c'est-à-dire en vrai, non pas juste online, avec un musicien français qui s'appelle Jean-Michel Cagedan. Et j'ai organisé ça dans un magasin de guitare qui s'appelle Guitare Zadik, là, qui est vraiment un magasin de guitare d'enfer à Paris. Et ça s'est très bien passé, voilà, et j'ai d'ailleurs publié hier la dernière partie vidéo. Donc ça fait plus de 2h30 de vidéo à monter en multicam. Et pour du contenu super top. Et là encore, j'ai pu constater que quand on propose du contenu top, et ben les gens répondent présent. Voilà, donc ça c'est que du bonheur pour moi. En plus, bon, c'est un musicien que j'aime beaucoup, que j'avais déjà fait plusieurs fois en interview. Là, c'était la première fois qu'on travaillait sur un projet de telle ampleur ensemble. Et bah voilà, c'est toujours assez kiffant parce que moi, c'est un guitariste que je suis, dont je suis fan depuis très très longtemps. Donc voilà, moi j'ai encore ce côté un peu midinette. Voilà, travailler sur un projet pro avec un musicien de ce calibre-là, c'est des fois il faut encore que je me pince, voilà. Mais ça s'est super bien passé et j'étais bien content de tout ça. Voilà, ça c'était le point un peu de la chaîne guitare. Au niveau geek, je suis toujours avec mon iPhone 4S. Voilà, bon, je ferai probablement changer la batterie un de ces jours parce qu'au niveau autonomie, c'est pas génial. J'arrive tout juste à tenir une journée, encore faut que je sois vraiment tout juste, hein. Faut pas que je fasse grand chose, en général il est presque toujours plugué quand je suis à la maison. Et par contre, ce qui m'est arrivé l'autre jour, c'est que bon, vous savez que moi j'utilise beaucoup Evernote et toutes mes informations sont là. Par contre, il y a quelques petits morceaux d'informations que je mets dans le bloc-notes Apple, donc que ce soit sur Mac et qui sont synchronisés automatiquement sur iOS. Et l'autre jour, je vais dans le bloc-notes pour faire du copier-coller avec des petits bouts de texte que j'utilise pour la chaîne guitare, notamment, qui se répètent. Et je vois plus de notes. Je me dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois un truc pour une histoire de... rapport à une histoire de score, de jeu. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, ça m'a pas pris longtemps avant de trouver le coupable. Le coupable, c'était Lancelot, donc il y a un iPhone 4 qui est donc, on est tous synchronisés sur le même compte, et qui avait vu ces notes-là, qui s'était dit, ah non mais ça c'est pas à moi, et il avait tout bazardé, donc évidemment en bazardant toutes les notes de son téléphone, elles se sont synchronisées, puis elles ont disparu, et de mon ordinateur, et de mon téléphone. Donc j'étais un peu fumasse, non pas qu'il supprime, parce que voilà, ça arrive à tout le monde, mais surtout qu'il le fasse sans... voilà, pour lui c'était son téléphone, c'était normal, enfin plutôt c'était pas normal d'avoir des trucs qu'il n'avait pas écrits, donc il les a supprimés allègrement. Donc bon, j'avais pas d'informations voilà, qui étaient vraiment très pénibles de perdre, mais c'était des petits bouts de texte que j'utilise très souvent dans la gestion quand je crée un nouveau pass backstage et compagnie, voilà, pour avoir une sorte de bloc-notes, c'est le cas de le dire, de faire du copier-coller très rapidement, ça me permettait de gagner du temps. Et bon, voilà, c'était du texte qui était facile à recréer, mais comme j'avais peut-être 10 ou 15 notes comme ça, pour tous les geeks que nous sommes, en tout cas pour moi, il n'y a rien de pire que de perdre une donnée voilà quoi, parce que soit on ne l'a pas sauvegardée ou qu'on a fait une manip, il n'y a rien de pire. Donc, après avoir eu un peu cet excès d'énervement, qui n'a pas servi à grand chose de toute façon, parce que ça n'allait pas faire réapparaître les notes, il n'y a pas de undelete ou que ce soit, je me suis retroussé les manches, j'ai regardé à coup de Google comment faire pour récupérer ça. Alors donc c'est possible, mais c'est vraiment MacGyver, hein. Parce que donc j'avais encore accès à un vieux backup, enfin pas trop vieux en fait, de mon téléphone sur le Mac où il est synchronisé. Et donc en copiant tous les fichiers de ce backup et en trouvant à l'intérieur de ce backup quel est le fichier qui contient ces notes, alors évidemment ça serait pas aussi simple que d'avoir les notes en fichier texte, hein. Donc il a fallu trouver déjà le fichier en question et ensuite trouver le format du fichier et ensuite trouver comment lire le format de ce fichier. Donc alors c'est du SQL Lite, si je dis pas d'andouillerie. Et donc une fois qu'on a identifié ce fichier, il faut l'importer dans un client qui sait lire ça. Et puis après, une fois qu'on sait ça, bon voilà, il suffit de se balader dans les tables. Et après, j'ai pu à coup de copier-coller retrouver assez rapidement toutes mes notes. Donc voilà, ce qui fait que j'ai pu les réinjecter ensuite dans les notes. Et puis voilà. Donc si jamais vous avez un compte à iTunes, voilà, pour toute la famille, et que vous avez des petites notes comme ça qui se trimballent, faites attention à ça, ou en tout cas prévenez votre petite famille que si vous avez des notes là-dedans, ils sont priés de ne pas les supprimer. Alors j'ai pas regardé, peut-être qu'avec la gestion de famille de iTunes, il y a possibilité de faire autrement. Moi j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas creusé cette partie là. Là l'urgence pour moi c'est de récupérer ces données. Ça c'est fait à peu près, enfin c'est pas à peu près, en intégralité, puisque j'avais le backup au complet. Voilà, bah écoutez, je suis en train de terminer mon petit tour de lac. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour le mois de novembre. Donc continuez surtout à bien écouter tous les podcasts indépendants. Et à les encourager, ça fait toujours plaisir, que ce soit moi ou les autres, hein, évidemment. Et puis, on se reparle très bientôt. Ciao, bye bye.